paroles d'un Aitachi avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio La Prodie, bonjour. En ce dimanche 28 avril, nous fêtons un saint prêtre, Louis-Marie Grignon de Montfort, mort le 28 avril 1716. Il inspirera et continue d'inspirer une multitude de catholiques dans le monde entier en proposant un chemin tout simple, aller à Jésus par Marie. En effet, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, au numéro 1, il affirme « C'est par la très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Pour aller à Jésus-Christ, il faut trouver Marie. » Le pape Saint Jean-Paul II, en choisissant « Totus tuus » comme devise épiscopale puis pontificale, en fit un lumineux chemin de sainteté. Voici l'intégralité de ce fameux texte. « Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, prebe mi cor tuum Maria. » Bon, ça signifie « Je t'appartiens entièrement et tout ce que j'ai est à toi. » Je te prends pour mon tout, ô Marie, donne-moi ton cœur. Cette démarche avec Marie semble profiter du mois de mai pour offrir au cœur fervent et vigilant de nombreuses étapes dans des oasis spirituelles pour favoriser un ressourcement profond, diversifié et au goût d'éternité. Si le mois de mai est marqué au niveau international par la fête du travail, le 1er mai, et la commémoration de la victoire en 1945, le 8 mai, c'est aussi pour les chrétiens le mois de grands rendez-vous, en particulier en France, pour les catholiques. Ce mois est dense et riche, jugez plutôt. 1er mai, fête de Saint-Joseph artisan. 9 mai, jeudi de l'Ascension. Dimanche 19 mai, Pentecôte. 20 mai, Marie, mère de l'Église. 26 mai, très sainte Trinité, couplé avec la fête des mères. 30 mai, sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France. Et 31 mai, visitation. Une telle affluence de sollicitations de fêtes religieuses, qui couvrent tout le mois de mai, semble insister sur la complicité mystérieuse, à plusieurs titres, entre Marie et le mystère chrétien. Lors d'un récent séjour à Lourdes, je regardais avec étonnement les pèlerins présents venant de divers continents, l'Asie semblant, à ce titre, très bien représentée. Il est aussi impressionnant de constater que la joie rayonne de ces visages, quelle que soit la motivation, qui a conduit chaque personne devant la grotte de Massabielle. Il est certain pourtant que ces foules apportent aux pieds de la Vierge de nombreux fardeaux, pour elles-mêmes ou au nom de souffrances de leurs proches, de leurs familles, amis et communautés. Il est possible également que leur démarche soit un chemin de louange et un témoignage de reconnaissance pour un soulagement sensible ou une grâce secrète, car les miracles de Lourdes touchent autant les corps que les âmes. La motivation de leur joie, bien que personnelle et souvent inconnue, vient aussi d'une atmosphère indicible qui se respire au contact de cette humanité à la fois humble, fragile et douloureuse, se reconnaissant pécheresse. Les enfants de toutes ces nations, de tous les âges, si différents de culture, si divers dans leurs expériences, si étrangers dans leurs statuts sociaux, se trouvent cependant réunis, animés d'une même espérance, par une foi qui les a fait quitter leurs habitudes, leur confort, leur certitude, pour prier ensemble. Seulement quelques minutes peut-être. Une telle communion demeure improbable et cependant quotidienne, comme en tant de lieux mariaux où brûlent durablement des cierges témoins de la ferveur du cœur des pèlerins. Nous y avons rencontré, lors de notre dernier passage, de nombreux groupes de jeunes, parlant des langues européennes, mais aussi d'autres contrées, la plupart venus à Lourdes dans le cadre d'un pèlerinage paroissial ou grâce au scoutisme. Notre rencontre avec ces jeunes adolescents a été un cadeau bienvenu et providentiel. En effet, face à la croissance actuelle, largement médiatisée, d'actes de violence perpétrés par des jeunes contre d'autres jeunes dans notre société, il est nécessaire de constater qu'une jeunesse dont la santé témoigne du désir de sainteté existe encore et venant de tous horizons. Cette jeunesse contredit heureusement la perspective d'une génération condamnée à l'individualisme dans une fatalité incontrôlable et irréversible. Toutefois, malgré les discours politiques comme les manifestations émues du corps social révulsé, malgré les nombreuses courageuses et généreuses initiatives d'associations spécialisées, toutes les actions entreprises apparaissent vaines pour maîtriser un phénomène qui semble gagner en ampleur et déborder les institutions comme les bonnes volontés. Il y a des solutions, mais elles sont nécessairement à la mesure de notre propre désir de sainteté, c'est-à-dire de notre action quotidienne, de nous consacrer à notre devoir d'État. J'ai vécu récemment une douloureuse expérience dont les fruits, patinés par la méditation tout au long du carême, me permettent de tirer quelques leçons qui, sans me réjouir, m'éclairent sur des dynamiques perverses liées aux dérives de notre civilisation de la consommation. Lors d'un cours présenté en anglais devant des étudiants au niveau de master, j'ai commis l'imprudence de faire une citation d'un film ancien dont les termes étaient à l'époque complètement admis et aujourd'hui inacceptables. Malheureusement mal compris par un étudiant, j'ai bénéficié d'un lynchage sur le réseau social de l'établissement scolaire pendant la pause. Et le temps de terminer mon cours, la condamnation était prononcée par la direction sans que je sois invité à m'exprimer pour éclaircir le malentendu. Les temps ont changé, les mentalités évoluent et nos codes sociaux, notamment d'expression, sont très mouvants, voire déstabilisants. Cependant, je retiens de cette mésaventure quelques leçons dont voici les principales. En premier lieu, le monde économique que nous avons confié à nos enfants, en particulier dans l'entreprise, doit rester vigilant pour que le souci du rendement ne se transforme pas en idolâtrie au détriment de la personne humaine. Selon les termes du philosophe Emmanuel Kant, cette humanité, cette personne humaine, doit être respectée comme une fin en soi et non comme un moyen. Si nos universités et grandes écoles deviennent des stades où la compétition et l'ambition sans conscience ni dialogue sont enseignées et rendent dignes des premières marches du podium de l'illusion d'une réussite sociale, l'injustice y fera son nid, conduisant inéluctablement à la disparition cruelle d'une certaine civilisation marquée à l'origine de respect et d'entraide. En second lieu, je crois que les familles, dès le plus jeune âge des enfants, sont les premières responsables de la qualité humaine et de l'éducation de leurs enfants. Je crois également que cette éducation ne peut se faire que dans un cadre où l'amour généreux, mais également exigeant, est la seule voie de civilisation pour construire une société d'avenir. La connaissance et le respect du décalogue en sont les garants universels. Enfin, il s'agit pour les parents, en liaison avec tous les acteurs de la croissance de chaque enfant, de s'assurer que les valeurs d'humanité sont bien assimilées, selon les âges et les tempéraments de chacun. On doit chaque fois répondre à des besoins toujours singuliers. Je suis aujourd'hui émerveillé de rencontrer à la messe de plus en plus d'enfants, et d'enfants très jeunes, comme une poussée de printemps dans nos églises. Sous le regard attendri des plus anciens de l'Assemblée, ils apportent une touche très vivifiante dans nos cérémonies. Tel est ce petit homme de 2 ou 3 ans, guère plus, qui se hisse sur la pointe des pieds pour mettre sa main dans le bénitier et marquer son front, ses lèvres et son cœur du signe de la croix, les yeux fermés et le visage concentré. Celle-ci, qui, un sourire illuminant son visage, traverse spontanément la nef et s'approche d'une personne en fauteuil roulant pour lui partager le geste de paix. Ces enfants qui chantent, encore un peu émus, mais déjà en communion, pour célébrer avec ferveur un mystère qu'ils devinent grand, beau et plein d'amour. Je les rencontre, ces enfants, dans ma paroisse, mais également dans les paroisses que je découvre, tant dans les capitales que dans les églises de nos campagnes. Et je suis rempli d'une joie printanière, comme devant ces jeunes pousses de nos jardins qui annoncent de nouveaux fruits, et dans nos champs, de futures généreuses moissons. Et je ne manque pas, quand c'est possible, d'aller remercier et encourager leurs parents, parfois les grands-parents, pour leur engagement essentiel dans cette éducation chrétienne qui aujourd'hui devient de manière de plus en plus urgente et cruciale le vrai sel de la terre et qui seul donne sens à la vie. Pour conclure sur ces jeunes pousses, j'emprunterai la formule du poète oriental Tagore. Nos enfants ne sont pas nos enfants, nous sommes les arcs et ils sont les flèches. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à une prochaine fois.